Chapitre 30 qui traite de la finesse d'esprit que montra la belle Dorothée, ainsi que d'autres choses singulièrement divertissantes. Le curé n'avait pas fini de parler que Sancho lui dit
« Par ma foi, seigneur licencié, savez-vous qui a fait cette belle prouesse? C'est mon maître. Et pourtant, je ne m'étais pas fait faute de lui dire par avance qu'il prit garde à ce qu'il allait faire et que c'était un péché mortel que de leur rendre la liberté, puisqu'on les envoyait tous aux galères comme de fieffés coquins. »«
Imbécile! Est-ce par hasard au chevalier errant à vérifier si les affligés, les enchaînés et les opprimés qu'ils trouvent sur leur grand chemin vont en cet état et dans ces tourments pour leur faute ou pour leur mérite? Ils n'ont rien à faire qu'à les secourir à titre de malheureux, n'ayant égard qu'à leur misère et non point à leurs méfaits. J'ai rencontré un chapelet de pauvres diables tristes et souffrants, et j'ai fait pour eux ce qu'exige le serment de mon ordre, advienne que pourra. Quiconque y trouverait à redire, sauf toutefois le saint caractère du seigneur licencié et sa vénérable personne, je lui dirais qu'il n'entend rien aux affaires de la chevalerie et qu'il ment comme un rustre mal appris. Je lui ferai bien voir, avec la lance ou l'épée, à pied ou à cheval, ou de telle manière qu'il lui plaira. »
En disant cela, Don Quichotte s'affermit sur ses étriers et enfonça son morion jusqu'aux yeux. Car pour le plat barbe, qui était à son compte l'armée de Membrun, il le portait pendu à l'arçon de sa selle, en attendant qu'il remît des mauvais traitements que lui avaient fait essuyer les galériens. Dorothée, qui était pleine de pénétration et d'esprit, connaissant déjà l'humeur timbrée de Don Quichotte, dont elle savait bien que tout le monde se raillait, hormis Sancho Panza, ne voulut point demeurer en reste, et le voyant si courroucé, « Seigneur chevalier, que votre grâce ne perde pas souvenance du don qu'elle m'a promis sur sa parole, en vertu de laquelle vous ne pouvez vous entremettre en aucune aventure, quelque pressante qu'elle puisse être. Calmez votre cœur irrité, car assurément, si le seigneur licencié eût su que c'était à ce bras invincible que les galériens devaient leur délivrance, il aurait mis trois fois le doigt sur sa bouche, et se serait même mordu trois fois la langue, plutôt que de lâcher une parole qui pût causer à votre grâce le moindre déplaisir. « Oh, je le jure sur ma foi !» s'écria le curé, « et je me serais plutôt arraché la moustache. »«
Je me tairai donc, madame. Je réprimerai la juste colère qui s'était allumée dans mon âme et me tiendrai tranquille et pacifique jusqu'à ce que j'aie satisfait à la promesse que vous avez reçue de moi. » Mais en échange de ces bonnes intentions, je vous supplie de me dire, si toutefois vous n'y trouvez nul déplaisir, quel est le sujet de votre affliction? Quels et combien sont les gens de qui je dois vous donner une légitime, satisfaisante et complète vengeance?
C'est ce que je ferai de bien bon cœur s'il ne vous déplaît pas d'entendre des malheurs et des plaintes.
Non, sans doute.
En ce cas, que vos grâces me prêtent leur attention. À peine eut-elle ainsi parlé que Cardenio et le barbier se placèrent à côté d'elle, désireux de voir comment la discrète Dorothée conterait sa feinte histoire. Et Sancho fit de même, aussi abusé que son maître sur le compte de la princesse. Pour elle, après s'être bien affermie sur sa selle, après avoir toussé et pris les précautions d'un orateur à son début, elle commença de la sorte avec beaucoup d'aisance et de grâce. « Avant tout, mes seigneurs, je veux faire savoir à vos grâces qu'on m'appelle... » Ici, elle hésita un moment, ne se souvenant plus du nom que le curé lui avait donné. Mais celui-ci, comprenant d'où partait cette hésitation, vint à son aide et lui dit « Il n'est pas étrange, madame, que votre grandeur se trouble et s'embarrasse dans le récit de ses infortunes. C'est l'effet ordinaire du malheur, d'ôter parfois la mémoire à ceux qui l'a frappé, tellement qu'ils oublient jusqu'à leur propre nom, comme ils viennent d'arriver à votre seigneurie, qui semble ne plus se souvenir qu'elle s'appelle la princesse Micomicona, légitime héritière du grand royaume de Micomicon. Avec cette simple indication, votre grandeur peut maintenant rappeler à sa triste mémoire tout ce qui lui plaira de nous raconter. Ce que vous dites est bien vrai, mais je crois qu'il ne sera plus désormais nécessaire de me rien indiquer ni souffler, et que je mènerai à bon port ma véridique histoire. La voici donc. Le roi, mon père, qui se nommait Tinacrio le sage, fut très versé dans la science qu'on appelle magie. Il découvrit, à l'aide de son art, que ma mère, nommée la reine Zaramilla, devait mourir avant lui, et que lui-même, peu de temps après, passerait de cette vie dans l'autre, de sorte que je resterais orpheline de père et de mère. Il disait toutefois que cette pensée ne l'affligeait pas autant que de savoir, de science certaine, qu'un effroyable géant, seigneur d'une grande île qui touche presque à notre royaume, nommé Pantaphilando de la sombre vue, car il est avéré que bien qu'il ait les yeux à leur place, et droit l'un et l'autre, il regarde toujours de travers comme s'il était louche, ce qu'il fait par malice pour faire peur à ceux qu'il regarde. Mon père, dis-je, sut que ce géant, dès qu'il apprendrait que j'étais orpheline, devait venir fondre avec une grande armée sur mon royaume et me l'enlever tout entier, pièce par pièce, sans me laisser le moindre village où je pusse trouver asile, mais que je pourrais éviter ce malheur et cette ruine si je consentais à me marier avec lui. Du reste, mon père voyait bien que jamais je ne pourrais me résoudre à un mariage si disproportionné, et c'était bien la vérité qu'il annonçait. Car jamais il ne m'est venu la pensée d'épouser ce géant, ni aucun autre, si grand et si colossal qu'il pût être. Mon père dit aussi qu'après qu'il serait mort, et que je verrais Pantaphilando commencer à envahir mon royaume, je ne songeasse aucunement à me mettre en défense, ce qui serait courir à ma perte, mais que je lui abandonnasse librement la possession du royaume, si je voulais éviter la mort et la destruction totale de mes bons et fidèles vassaux, puisqu'il m'était impossible de résister à la force diabolique de ce géant. Il ajouta que je devais sur le champ prendre avec quelques-uns des miens le chemin des Espagnes, où je trouverais le remède à mes maux dans la personne d'un chevalier errant, dont la renommée s'étendrait alors dans tout ce royaume, et qui s'appellerait, si j'ai bonne mémoire, « Don Fricote » ou « Don Gigote ».
C'est Don Quichotte qui l'aura dit, madame. Autrement dit, le chevalier de la triste figure.
Justement, il ajouta qu'il devait être haut de stature, sec de visage, et que, du côté droit, sous l'épaule gauche ou près de là, il devait avoir une envie de couleur brune, avec quelques poils en manière de soie de sanglier.
« Approche ici, mon fils Sancho. » « Viens m'aider à me déshabiller, car je veux voir si je suis le chevalier qu'annonce la prophétie de ce sage roi. »«
Et pourquoi votre grâce veut-elle se déshabiller ainsi ?»«
Pour voir si j'ai bien cette envie dont votre père a parlé. »«
Il n'est pas besoin de vous déshabiller pour cela. Je sais que votre grâce a justement une envie de cette espèce au beau milieu de l'épine du dos, ce qui est un signe de force dans l'homme. »«
Cela suffit. » Entre amis, il ne faut pas y regarder de si près. Qu'elle soit sur l'épaule, qu'elle soit sur l'échine, qu'elle soit où bon lui semble, qu'importe, pourvu que l'envie s'y trouve. Après tout, c'est la même chair. Sans aucun doute, mon bon père a rencontré juste. Et moi aussi, j'ai bien rencontré en m'adressant au seigneur Don Quichotte, qui est celui dont mon père a parlé, car le signalement de son visage concorde avec celui de la grande renommée dont jouit ce chevalier, non seulement en Espagne, mais dans toute la Manche. En effet, j'étais à peine débarqué à Osuna que j'entendis raconter de lui tant de prouesses qu'aussitôt le cœur me dit que c'était bien celui que je venais chercher.
Mais comment votre grâce est-elle débarquée à Osuna, puisque cette ville n'est pas un port de mer ?
Avant que Dorothée répondît, le curé prit la parole. « Madame la princesse, dit-il, a sûrement voulu dire qu'après être débarquée à Malaga, le premier endroit où elle entendit raconter de vos nouvelles, ce fut Osuna. C'est bien cela que j'ai voulu dire. Et maintenant, rien n'est plus clair, ajouta le curé. Votre majesté peut poursuivre son récit. Je n'ai plus rien à poursuivre, sinon qu'à la fin, ça a été une si bonne fortune de rencontrer le seigneur Don Quichotte que déjà je me regarde et me tiens pour reine et maîtresse de tout mon royaume. Car dans sa courtoisie et sa munificence, il m'a octroyé le don de me suivre où il me plairait de le mener, ce qui ne sera pas ailleurs qu'en face de Pantaphilando de la sombre vue, pour qu'il lui ôte la vie et me fasse restituer ce que ce traître a usurpé contre tout droit et toute raison. Tout cela doit arriver au pied de la lettre, comme l'a prophétisé Tinacrio le sage, mon bon père, lequel a également laissé par écrit, en lettres grecques ou chaldéennes, je n'y sais pas lire, que si le chevalier de la prophétie, après avoir coupé la tête au géant, voulait se marier avec moi, je devais, sans réplique, me livrer à lui pour sa légitime épouse et lui donner la possession de mon royaume en même temps que celle de ma personne.
Eh bien, que t'en semble, ami Sancho ? Ne vois-tu pas ce qui se passe ? Ne te l'avais-je pas dit ? Regarde si nous n'avons pas maintenant un royaume à gouverner et reine à épouser.
J'en jure par ma barbe, et nargue du bâtard qui ne se marierait pas dès qu'il aurait ouvert le gosier au seigneur Panofilando. La reine est peut-être un laidron, hein, que toutes les puces de mon lit ne sont-elles ainsi faites ?
En disant cela, il fit en l'air deux gambades, se frappant le derrière du talon, avec tous les signes d'une grande joie. Puis il s'en fut prendre par la bride la mule de Dorothée, la fit arrêter, et se mettant à genoux devant la princesse, il la supplia de lui donner ses mains à baiser, en signe qu'il la prenait pour sa reine et maîtresse. Qui des assistants aurait pu s'empêcher de rire en voyant la folie du maître et la simplicité du valet ? Dorothée, en effet, présenta sa main à Sancho et lui promit de le faire grand seigneur dans son royaume, dès que le ciel lui aurait accordé la grâce d'en recouvrer la paisible possession. Sancho lui offrit ses remerciements en termes tels qu'il fit éclater de nouveaux rires. « Voilà, seigneur, ma fidèle histoire, je n'ai plus rien à vous dire, si ce n'est que de tous les gens venus de mon royaume à ma suite, il ne me reste que ce bon écuyer barbu. Tous les autres se sont noyés dans une grande tempête que nous essuyâmes en vue du port. » Lui et moi, nous arrivâmes à terre sur deux planches, et comme par miracle, car tout est miracle et mystère dans le cours de ma vie, ainsi que vous l'aurez observé. Si j'ai dit des choses superflues, si je n'ai pas toujours rencontré aussi juste que je le devais, il faut vous en prendre à ce qu'a dit le Seigneur licencié au commencement de mon récit, que les peines extraordinaires et continuelles ôtent la mémoire à ceux qui les endurent.
« Elles ne me l'ôteront point à moi, ô tes valeureuses princesses, quelque grandes et inouïes que soient celles que je dois endurer à votre service. Ainsi, je confirme de nouveau le don que je vous ai octroyé, et je jure de vous suivre au bout du monde jusqu'à ce que je me voie en face de votre farouche ennemi, auquel j'espère bien, avec l'aide de Dieu et de mon bras, trancher la tête orgueilleuse sous le fil de cette, je n'ose dire bonne épée, grâce à Ginès de Passamont, qui m'a emporté la mienne. »
Don Quichotte dit ses derniers mots entre ses dents et continua de la sorte.
« Après que je lui aurai tranché la tête et que je vous aurai remis en paisible possession de vos états, vous resterez avec pleine liberté de faire de votre personne tout ce que bon vous semblera, car tant que j'aurai la mémoire occupée, la volonté captive et l'entendement assujetti par celle, je ne dis rien de plus, et ne saurais envisager même en pensée le projet de me marier, fût-ce avec l'oiseau phénix. »
Sancho se trouva si choqué des dernières paroles de son maître et de son refus de mariage que, plein de courroux, il s'écria en élevant la voix
« Je jure Dieu et je jure diable, seigneur Don Quichotte, que votre grâce n'a pas maintenant le sens commun. Comment est-il possible que vous hésitiez à épouser une si haute princesse que celle-là ? Pensez-vous que la fortune va vous offrir à chaque bout de champ une bonne aventure comme celle qui se présente ? Est-ce que par hasard Madame Dulcinée est plus belle ? Non, par ma foi, pas même de moitié. Et j'ai envie de dire qu'elle n'est pas digne de dénouer les souliers de celle qui est devant nous. J'attraperai, par Dieu, bien le comté que j'attends, si votre grâce se met à chercher des perles dans les vignes. Mariez-vous, mariez-vous vite de par tous les diables, et prenez ce royaume qui vous tombe dans la main comme vobis vobis. Et quand vous serez roi, faites-moi marquis ou gouverneur, et qu'ensuite Satan emporte tout le reste. »
Don Quichotte, qui entendit proférer de tels blasphèmes contre sa Dulcinée, ne put se contenir. Il leva sa pique par le manche et, sans adresser une parole à Sancho, sans crier gare, il lui déchargea sur les reins deux coups de bâton tels qu'il le jeta par terre et que, si Dorothée ne lui eût crié de finir, il aurait assurément tué sur la place.
« Pensez-vous, misérable vilain, qu'il soit toujours temps pour vous de me mettre la main dans l'enfourchure et que nous n'ayons d'autre chose à faire que vous de pécher et moi de pardonner ? n'en croyez rien, coquin excommunié, et sans doute tu dois l'être puisque tu as porté la langue sur la sang pareille Dulcinée. Et ne savez-vous plus, maraud, bélitre, vaurien, que si ce n'était la valeur qu'elle prête à mon bras, je n'aurais pas la force de tuer une puce? Dites-moi, railleur à langue de vipère, qui donc pensez-vous qui ait gagné ce royaume et coupé la tête au géant et fait de vous un marquis, car tout cela je le donne pour accompli et passé en force de choses jugées, si ce n'est la valeur de Dulcinée, laquelle a pris mon bras pour instrument de ses prouesses? C'est elle qui combat et qui triomphe en moi, et moi je vis et je respire en elle, et j'y puise l'être et la vie. Ô rustre mal né et mal appris, que vous êtes ingrat! On vous lève de la poussière des champs pour vous faire seigneur titré, et vous répondez à cette bonne œuvre en disant du mal de qui vous fait du bien.
Sancho n'était pas si maltraité qu'il n'eût fort bien entendu tout ce que son maître lui disait. Il se releva le plus promptement qu'il put, alla se cacher derrière le palefroid de Dorothée et, de là, répondit à son maître
« Dites-moi, seigneur, si votre grâce est bien décidée de ne pas se marier avec cette grande princesse, il est clair que le royaume ne sera point à vous. Et s'il n'est pas à vous, quelle faveur pouvez-vous me faire ? C'est de cela que je me plains. Croyez-moi, mariez-vous une bonne fois pour toutes avec cette reine que nous avons ici comme tombée du ciel. Ensuite, vous pourrez retourner à Madame Dulcinée, car il doit s'être trouvé des rois dans le monde qui aient eu, outre leurs femmes, des maîtresses. Quant à la beauté, je ne m'en mêle pas. Et, s'il faut dire la vérité, toutes deux me paraissent assez bien, quoique je n'ai jamais vu Madame Dulcinée.
Comment ? Tu ne l'as jamais vue, traître blasphémateur ! Ne viens-tu pas à présent de me rapporter une commission de sa part ?
Je veux dire que je ne l'ai pas vue assez à mon aise pour avoir observé ses attraits en détail et l'un après l'autre, mais comme cela, en masse, elle me semble bien.
À présent, je te pardonne. Et pardonne-moi aussi le petit déplaisir que je t'ai causé. Les premiers mouvements ne sont pas dans la main de l'homme.
Je le vois bien, mais chez moi, le premier mouvement est toujours une envie de parler, et je ne peux m'empêcher de dire une bonne fois ce qui me vient sur la langue.
Avec tout cela, prends garde, Sancho, aux paroles que tu dis, car t'en vas la cruche à l'eau. Je n'en dis pas davantage.
C'est très bien. Dieu est dans le ciel qui voit les tricheries. Il jugera entre nous qui fait le plus de mal, ou de moi en ne parlant pas bien, ou de votre grâce en n'agissant pas mieux.
Que ce soit fini. Courez, Sancho, allez baiser la main de votre seigneur et demandez-lui pardon. Et désormais, soyez plus circonspect dans vos éloges et dans vos critiques, et surtout, ne parlez jamais mal de cette dame taubose que je ne connais point, si ce n'est pour la servir, et prenez confiance en Dieu qui ne vous laissera pas manquer d'une seigneurie où vous puissiez vivre comme un prince. » Sancho s'en alla, humble et tête basse, demander la main à son seigneur qui la lui présenta d'un air grave et posé. Quand l'écuyer eut baisé la main, Don Quichotte lui donna sa bénédiction et lui dit de le suivre un peu à l'écart, qu'il avait des questions à lui faire et qu'il désirait causer de choses fort importantes. Sancho obéit, et quand ils eurent tous deux pris les devants, Don Quichotte lui dit
« Depuis que tu es de retour, je n'ai eu ni le temps ni l'occasion de t'interroger en détail sur l'ambassade que tu as remplie et sur la réponse que tu m'as apportée. Maintenant que la fortune nous accorde cette occasion et ce loisir, ne me refuse pas la satisfaction que tu peux me donner par de si heureuses nouvelles. »«
Votre grâce peut demander ce qui lui plaira. » Tout sortira de ma bouche comme il sera entré par mon oreille, mais je vous en supplie, ne soyez pas à l'avenir si vindicatif.
Pourquoi tu dis cela, Sancho ?
Je dis cela parce que les coups de bâton de tout à l'heure me viennent bien plus tôt de la querelle que le diable alluma l'autre nuit entre nous deux que de mes propos sur Madame Dulcinée, laquelle j'aime et révère comme une relique. Quand même, elle ne serait pas bonne à en faire, et seulement parce qu'elle appartient à votre grâce.
Ne reprends pas ce sujet par ta vie, Sancho. Il me déplaît et me chagrine. Je t'ai pardonné tout à l'heure, et tu sais bien ce qu'on a coutume de dire. À péché nouveau, pénitence nouvelle. »
Tandis qu'ils en étaient là de leur entretien, ils virent venir, le long du chemin qu'ils suivaient, un homme monté sur un âne, lequel, en s'approchant, leur parut être un bohémien. Mais Sancho pensa qu'il ne pouvait voir un âne sans que son âme s'y portât tout entière avec ses yeux, n'eut pas plutôt aperçu l'homme qu'il reconnut Ginès de Passamont, et par le fil du bohémien, il tira le peloton de son âne, et c'était bien, en effet, le grison que Passamont avait pour monture. Celui-ci, pour n'être point reconnu et pour vendre l'âne à son aise, s'était déguisé sous le costume des bohémiens, gens dont le jargon lui était familier, aussi bien que d'autres langues qu'il parlait comme la sienne propre. Sancho le vit et le reconnut. Il se mit à lui crier à plein gosier.
« Ah, voleur de Ginésie, laisse mon bien, lâche ma vie, descends de mon lit de repos, rends-moi mon âne, rends-moi ma joie et mon orgueil, fuis, garnement, décampe larron et restitue ce qui n'est pas à toi. »
Il ne fallait ni tant de paroles, ni tant d'injures, car au premier mot, Ginès sauta par terre, et prenant un trot qui ressemblait fort au galop de course, il fut bientôt loin de la compagnie. Sancho courut à son âne, l'embrassa et lui dit
« Eh bien, comment t'es-tu porté, mon enfant, mon compagnon, cher grison de mes yeux et de mes entrailles ?»
Et tout en disant cela, il le baisait et le caressait comme si c'eût été une personne raisonnable. L'âne se taisait, ne sachant que dire, et se laissait baiser et caresser par Sancho sans lui répondre une seule parole. Toute la compagnie arriva, et chacun fit compliment à Sancho de ce qu'il avait retrouvé le grison, Don Quichotte, entre autres, qu'il n'annulerait pas pour cela la lettre de change des trois anons, générosité dont Sancho lui témoigna sa gratitude. Pendant que le chevalier et l'écuyer s'entretenaient à part, le curé avait complimenté Dorothée sur le tact et l'esprit qu'elle avait montré, aussi bien dans l'invention de son conte que dans sa brièveté, et dans la ressemblance qu'elle avait su lui donner avec les livres de chevalerie. Elle répondit qu'elles étaient fort souvent amusées à en lire, mais que, ne sachant pas aussi bien où étaient les provinces et les ports de mer, elle avait dit à tout hasard qu'elle avait débarqué à Osuna. « Je m'en suis aperçu, reprit le curé, et c'est pour cela que je me suis empressé de dire ce que j'ai dit et qui a tout réparé. » Mais n'est-ce pas une chose étrange que de voir avec quelle facilité ce malheureux gentilhomme donne tête baissée dans toutes les inventions et dans tous les mensonges, seulement parce qu'ils ont l'air et le style des niaiseries de ses livres ? Oui, certes, ajouta Cardenio, c'est une folie tellement bizarre, tellement inouïe, que je ne sais si, voulant l'inventer et la fabriquer à plaisir, on trouverait un esprit assez ingénieux pour l'imaginer. Mais il y a, reprit le curé, une autre chose encore plus étrange, c'est que, hors des extravagances que dit ce bon gentilhomme à propos de sa monomanie, on n'a qu'à traiter un autre sujet, il va discourir très pertinemment et montrera une intelligence claire et sensée en toutes choses. De sorte que, si l'on ne touche à la corde de la chevalerie errante, il n'y aura personne qui ne le prenne pour un homme de bon sens et de droite raison.